L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans la 262e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
À la technique avec une un matériel
un
petit peu
capricieux. Un bouton qui n'était pas allumé en fait. Il y avait un bouton qui n'était pas mis, désolé.
Méchant bouton. C'est donc la semaine paire, donc c'est l'heure de vous expliquer et de vous vulgariser l'actualité des deux semaines écoulées dans le monde du libre. Pierre, par quoi on commence? Tiens, Internet et vie privée?
Ouais, on peut commencer, c'est un bon moment.
La vilaine Europe, tu as envie de fustiger de manière très ironique. La vilaine Europe.
Oui, parce que c'est... Comment dire ? Il y a beaucoup de familles politiques qui se disent que l'Europe est une bonne cible. C'est un magnifique bouc émissaire, comme on dit. Donc, il est temps de rétablir aussi un petit peu quand même l'Europe. Ah oui, la vilaine Europe à cause d'elle. Qu'est-ce qui se passe ?
Elle va obliger Apple à implémenter un protocole ouvert.
Oh, la vilaine Europe.
Mon Dieu.
Voilà.
Après les avoir obligés à utiliser l'USB-C pour leur chargeur.
Exactement.
Là, maintenant qu'ils vont devoir utiliser un protocole de messagerie, le protocole RCS.
Tout à fait.
Donc, qui est un protocole émergent.
Ça s'est implémenté depuis quelques années sous Android, il me semble.
Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment utilisé? Est-ce que, moi, d'expérience, soit tu utilises des SMS, soit tu utilises une application de chat comme WhatsApp, Signal, ce genre de choses.
Dans tous les cas, ils vont être obligés d'implémenter un standard. Et ça, rien que pour ça. Donc, là,
alors, c'est équivalent des e-messages, par contre, qui sont plutôt utilisés sur Apple.
C'est ça. Donc, en fait, le problème pour Apple, c'est que, effectivement, dans le cadre du DMA, du Digital Market Act, donc loi de marché règlement du marché numérique, grosso modo, traduction approximative, dans ce cadre, il y a un ensemble d'entreprises qui ont été désignées, dont les services ont été désignés comme des gatekeepers, des gardiens du temple. Et donc, les gardiens en question, en fait, c'est tout ce qui est service permettant la mise en relation entre professionnels et particuliers et avec un certain nombre de critères sur le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs, ceci, cela. Et Apple, jusqu'à maintenant, a défendu bec et ongles que non, e-message ne rentre pas dans le cadre de... du DMA, ça ne doit pas être régulé, c'est bon. Alors qu'à côté, en face, il y a Google, il y a des opérateurs télécom allemands de mémoire, il y a Deutsche Telekom.
Ils aiment bien chez Apple, c'est un peu une manie pour eux que de dire « Ah non, nos services ne rentrent pas dans le cadre du DMA ». Bon, on avait expliqué la semaine dernière qu'ils avaient voulu faire un petit tour de passe-passe avec les chiffres de Safari.
Oh,
léger.
Léger. Safari, c'est pas un navigateur, c'est quatre, donc vous comprenez, la part de marché, elle est pas si grande. C'est pas passé. Pas passé du tout. Et donc, là, dans le cadre de e-message, en fait, les SMS, techniquement, c'est quand même extrêmement limité. Il y a des gros problèmes, notamment techniquement sur les SMS. De mémoire, les SMS sont obligés de passer sur le réseau 2G. Enfin, le téléphone est obligé de passer dans un mode dégradé, il peut pas gérer de données en même temps qu'il envoie les SMS. De mémoire. Il y a aussi des limites techniques, c'est extrêmement limité, il n'y a pas de notification d'avoir reçu le message. Le message ait été lu, non ?
Ah, lu, non, reçu. Oui,
oui, pardon. Il n'y a pas de notification, enfin, il n'y a pas moyen, alors, moi je ne connais pas ces fonctionnalités-là parce que je ne m'en sers pas, mais a priori, les gens ont la possibilité de rajouter des icônes de réaction sur les messages, dans la plupart des messageries modernes. Ah bon ?
Vous ne connaissez pas cet usage, Pierre ?
Non, et du coup, il paraît que c'est utilisé, et du coup, c'est pas présent sur les SMS. Et donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai des...
Ça me manque pas, personnellement.
Moi non plus, mais du coup, les gens qui aujourd'hui sont sur des protocoles fermés, c'est des bulles entre eux, voilà. Et donc, Google, pour Android, a implémenté, alors je pense à la demande de différents opérateurs aussi, a implémenté le RCS, donc un format, c'est un standard. Voilà, c'est développé par la GSM Association. Et voilà, normalement, tout le monde devrait l'implémenter. Et voilà. Et sauf que Apple avait jusqu'à maintenant dit non, on n'en a pas besoin. Mais nous, non, non, il n'y a pas besoin. Et finalement, là, ils ont dit ah, ça sort l'année prochaine. Regardez, c'est trop bien. Alors, il y aura des subtilités encore. Hein. On attend de voir à quel point Google va. À quel point Apple va discriminer encore les utilisateurs de ça. En fait, dans le système de messagerie d'Apple, apparemment, il y a des bulles vertes et des bulles bleues. C'est selon le camp dans lequel vous êtes. Si vous êtes sur un iPhone, vous avez droit à la couleur premium. Sinon, vous avez droit à la couleur dégradée.
Ouais, il faut quand même marquer. Voilà, c'est ça. Il faut bien mettre en avant les utilisateurs d'Apple, montrer que c'est un petit peu l'élite.
L'une des questions, c'est est-ce que les utilisateurs sur RCS auront droit à la même couleur que les autres ? Sans déconner, c'est une question qui est vraiment posée. Ça me surprend quand même. Mais bon, effectivement, ça resterait une discrimination et ça pourrait être suffisant pour justifier que non, ils doivent pas être considérés comme moins bien que les autres. Donc ça dégage.
On va continuer avec Apple qui va devoir autoriser l'installation d'applications hors de son App Store et ce dès l'année prochaine.
Tout à fait. Alors jusqu'à maintenant, c'était pas très clair, mais maintenant, c'était pas certain. Là, maintenant, c'est bon. L'App Store sera prêt pour le 6 mars. Ils ont jusqu'au 6 mars pour que ce soit implémenté. Et en fait, ça a été confirmé par différents documents, notamment dans un document interne. Un document aux investisseurs d'Apple où il listait les perspectives pour l'année prochaine. Il disait qu'il y avait des évolutions qui devaient être mises en place sur l'App Store pour certains marchés spécifiques qui concernaient la possibilité d'installer des applications sans passer par l'App Store, mais on se demande bien de quel marché ça parlait. C'est clairement, voilà, ça visait l'Europe. Juste quand même, juste pour se rendre compte, hein, une entreprise comme Apple, si la France essayait de contraindre Apple,
ce serait compliqué avec le.
La réaction en face serait du genre lol ou qui vous êtes monsieur. Voilà.
Voilà, ouais. C'est un pays de 68 millions d'habitants. Sauf que l'Union européenne et son marché de 400 millions d'habitants.
C'est ça. C'est pas le même budget. Ça change l'ordre de grandeur quand même. Et d'un coup, en fait, l'Union européenne peut contraindre les entreprises, alors que la France, une entreprise comme Apple, essayer de la contraindre, c'est possible, mais la réaction d'Apple sera pas vous mettez de nouvelles règles, je vais m'y soumettre. Ça va plutôt être vous mettez des nouvelles règles, vous avez pas la force de frappe pour mettre des amendes suffisamment grosses parce que j'ai pas de chiffre d'affaires chez vous quasiment. Au revoir. Voilà, ça se résume à ça.
On dit pas que le fonctionnement de l'Union européenne est parfait, mais
ah non, du tout. Attention. Mais voilà, ce petit rappel, l'Europe, ça sert aussi à ça, ça sert à être plus gros tous ensemble.
Plus gros tous ensemble, ça c'est une.
Exactement.
C'est un slogan pour la liste éco-dégno aux prochaines européennes.
Oh putain, ouais, on est trop fort.
Il y a un petit côté Kaamelott, il y a un petit côté Astier chez toi. J'avais pas un côté Alexandre.
Non, le côté Alexandre, c'est toi.
Alors, Instagram et Facebook sans publicité, ce sera 119,88 € par mois. Hein, pour être
par an, par an, par an.
Par mois, pardon. Par an,
oui,
il y arriver. Donc, c'est-à-dire 10 euros par an. Un petit peu, moi, je vous laisse faire la division par 12. On va dire 10 euros par mois. Hein. 9,99 €. Je vous laisse trouver les dixièmes de centimes qu'il faut. Donc on en avait parlé lors d'une précédente émission, donc c'était plus a priori pour satisfaire les demandes de l'Union européenne que réellement offrir des alternatives aux utilisateurs.
Exactement.
Quoique c'est quand même la concrétisation de vieilles légendes. Oh là là, Facebook va passer payant. Ils ont fini par faire une offre payante. Bon, une offre non obligatoire, ils savent très bien que s'ils obligeaient tout le monde à payer 10 euros par mois, il y a du monde qui partirait. Surtout que Facebook, hein, paraîtrait-il, hein, moi, je serais plutôt connoté un réseau social pour vieux. Twitter pour ceux qui veulent clasher.
X, on doit dire maintenant. On a
X,
plus
dire X, moi, je ne satisferais pas aux caprices de Monsieur Musk. Même Snapchat, je crois que ça devient un petit peu passé de mode.
Alors moi, je les connais
TikTok,
pas.
TikTok,
hein,
a priori. Oh là là là.
Attention, moi, je suis en dehors de tout ça. Et toujours est-il, juste. Le montant est quand même assez surprenant de la part de Facebook. Enfin, assez difficile à justifier. Quand on voit, parce que 10 euros par mois, quand même, c'est beaucoup. Et ça, c'est le montant de mémoire, c'est le montant quand on paye depuis un PC.
Ah, parce que le montant est différent si on paye depuis son téléphone portable.
Tout à fait. Si on paye sur un téléphone portable, le montant passe à 251,88 euros par an.
Ouh,
ouais. Mais petite augmentation.
De 5 euros par mois, quoi.
Oui, mais un peu moins. Mais en fait, c'est parce que...
Oui, 5,99 euros si tu veux.
Ouais. 4,99 euros, ok. C'est parce que, en fait, sur un ordinateur, le prix n'est pas le même. Parce que le prix pour Facebook n'est pas le même. Sur un téléphone portable, Facebook est contraint de payer la taxe Apple ou la taxe Google à travers les stores. Et donc, ben, ils ont décidé de faire payer le prix de cette taxe-là à tous les aux utilisateurs. Ce qui veut dire que le montant que vous allez payer tous les mois, si vous acceptez de payer ça, c'est quasiment tout dans la poche de Meta. Et ça veut dire, et c'est là où c'est rigolo, qu'on peut mettre ça en parallèle des documents financiers produits par Facebook. Et les documents financiers de Facebook révèlent que le revenu moyen par utilisateur de Facebook est de...
6 euros par mois, oui.
6 euros par mois. Ah ben ça alors. Donc du coup...
Vous faites une subvention de 4 euros par mois à Facebook.
Oui. C'est pas alors, mal, hein. Certes, dans les 10 euros, il y a la TVA, ce genre de choses. Donc allez, on va être gentil, on va compter 20% de TVA. 8 euros, vous êtes à 2 euros de cadeau, pur cadeau.
Vous dites qu'il ressemble un petit peu en fait au pop-up que vous avez sur certains sites en disant si vous voulez pas de pub et si vous voulez pas accepter tous les cookies, vous pouvez vous abonner pour 1,99€ par mois, en sachant que très bien que personne ne le fera et c'est pour inciter fortement à accepter les cookies.
Bon. Mais du coup, va y avoir un sujet intéressant, c'est que est-ce que le consentement sera toujours libre, spécifique et éclairé lorsque les gens accepteront les cookies plutôt que de payer. Il y a un vrai débat sur ça. Est-ce que c'est un choix raisonnable? Et ça va être très très drôle. L'offre de Meta jusqu'à maintenant n'a été validée par la CNIL, ni par les copains de la CNIL au sein de l'Europe. Hein. Personne n'a validé. Donc on verra ce que penseront les différentes autorités. Ça va être très rigolo aussi. Ça va être toujours fun ces trucs-là.
Windows 11 allégé pour l'Europe bientôt.
Ben
Pierre.
Oui, parce que tant qu'à faire, parce que les règlements européens s'appliquent aussi au système sur ordinateur et à l'excès d'intégration qui a lieu depuis quelque temps par Microsoft. Microsoft pousse de plus en plus
depuis 30 ans, Pierre.
Non, avant les années 90, ils ne le faisaient pas. Il y a eu une phase où ils l'ont fait dans les années 90, avec Microsoft Network, ActiveX, Windows Active Desktop.
Les intégrations d'Explorer dans... Non, c'était pas poussé, pas aussi poussé de MSN.
J'ai parlé de services, l'intégration de services, pas de logiciels entre eux. Les logiciels entre eux, c'est un autre cadre légal, ça ne s'applique pas ici, malheureusement. Sinon, on aurait pu bien s'amuser. Mais donc, là, dans le cadre de ce qui concerne l'Europe, eh bien, seront désinstallables la recherche par Bing, le navigateur Microsoft Edge, les moteurs de recherche tiers, que ce soit Google, DuckDuckGo ou autre, pourront avoir le même niveau d'intégration que seul Bing avait jusqu'à maintenant. Voilà, Microsoft avait mis des exclusivités pour eux, ils vont être obligés de les ouvrir. Il y a certains composants de Windows, voilà, d'autres composants, alors je ne connais pas trop, les widget boards, je ne sais pas ce que c'est. Lorsqu'on va synchroniser les comptes, lorsque vous allez synchroniser votre compte avec Microsoft, les préférences, notamment de choix par rapport à ces paramètres-là, seront sauvegardées et conservées. Et celle-là, elle m'a beaucoup fait rire. Windows utilisera systématiquement les applications, les paramètres par défaut des applications installées par l'utilisateur pour le choix des applications à ouvrir pour les liens et fichiers.
C'est-à-dire qu'il va respecter votre choix, en fait.
Voilà, c'est une fonctionnalité.
Ok.
Parce qu'avant, c'était pas le cas.
Ouais, le utiliser par défaut, non c'est...
Non, c'était, ça ne marchait pas, parce qu'on en avait parlé justement dans une émission, il y avait des cas où il contournait. Et en Europe, ce sera plus autorisé de contourner. C'est Juste, enfin, vous vous rendez, je sais pas si vous vous rendez compte du coup à quel point le règlement, la réglementation européenne qui est sortie là, casse complètement le business model de gros, gros parasites.
Qu'avait ça marche peut-être même mieux qu'un procès antitrust au final.
Ah ben là, c'est vachement efficace en tout cas, je trouve.
Merci Pierre pour ces nouvelles. On continue avec d'autres actualités après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Maïda Evran, Alter Ego. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Trap.
s'écouter un peu de hard rock avec May Devran, Alter Ego. Vous écoutez les Codes et nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec un peu l'Union européenne et EIDAS et l'obligation d'accepter la carte d'identité européenne pour certains services en ligne. Pierre, alors qu'est-ce que tu appelles la carte d'identité européenne ? C'est une carte d'identité d'un des membres de l'Union, enfin d'un État membre de l'Union européenne. Enfin,
alors non.
Il y a encore autre chose.
Voilà, il y a un projet de carte d'identité électronique, enfin dématérialisée si j'ai bien compris, numérique en tout cas, au niveau européen. Et l'idée, c'est introduit dans ce règlement, et l'idée, ça serait que sur les grandes plateformes, donc telles que définies par le DSA, il serait obligatoire, non pas, et là j'insiste, non pas d'utiliser ça pour s'authentifier, mais de pouvoir utiliser ça pour s'authentifier. Et en fait, j'en parle surtout parce qu'il y a des personnes, et on m'a déjà dit d'arrêter d'utiliser les insultes à la radio. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait d'un merveilleux raccourci en disant « Ah, vous voyez, l'Europe, ils veulent imposer l'utilisation de la carte électronique pour s'authentifier. Voilà, c'est la fin de l'anonymat, c'est n'importe quoi, c'est l'état policier, ceci, cela. » En fait, le but de ça, c'est uniquement de forcer les plateformes en question à ne pas avoir que leur propre méthode d'authentification. C'est dingue, c'est rien.
Donc c'est pas rendre obligatoire l'utilisation de cette carte pour pouvoir utiliser les services, mais l'offrir comme service d'authentification.
C'est obligatoire de proposer ce service-là. Voilà.
Un SSO un peu équivalent à
Je ne sais pas à quel point ça va être utilisé comme SSO. Hein, les détails,
France Connect, c'est quand même pratique.
France Connect, c'est très pratique, avec ses petits défauts. On n'a peut-être pas déjà assez parlé de France Connect Plus. On en parlera bientôt, parce que je crois que je vais devoir le subir prochainement. Et donc, il y a quelques services, notamment Amazon, l'App Store d'Apple, Google Play, Google Maps, Facebook, YouTube. Il y a un intrus dans l'eau, Wikipédia. Oups. Où on devra pouvoir s'authentifier avec ce moyen-là pour, alors dans le cas de Wikipédia, pour créer un compte enfin, et pour se connecter à son compte. Encore une fois, c'est la possibilité de se connecter qui va être obligatoire et pas l'obligation d'utiliser ce moyen-là. Incroyable, hein. On n'a pas une Commission européenne qui cherche tout le temps à nous surveiller. Et même quand c'est le cas, en fait, il y a des discussions tripartites derrière où le Parlement européen revient sur les trucs les plus liberticides et il n'y a plus de problème. Par exemple, là, ces derniers temps, on parlait beaucoup de chat control, l'idée d'imposer pour la lutte contre la pédopornographie, imposer des backdoors dans les messageries instantanées. Le Parlement européen, contrairement au Parlement français, on lui laisse faire son travail et du coup, il a dit stop, ça va pas, ça passe pas. Et donc, voilà. C'est dingue, ça fonctionne, waouh.
Oui, la France et le système parlementaire, c'est une histoire assez...
Ouais, on a y perdre la tête.
Quel est le moteur de recherche par défaut sur Safari ?
Eh bien, c'est Apple, je suis fatigué, c'est Google.
C'est Google. Est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait que 36% des revenus publicitaires générés par Google sur Safari sont reversés à Apple ?
Non, aucun. Voilà, c'est dans le cadre du procès antitrust de Google. Et donc, dans l'un des... En fait, apparemment, il y a une petite erreur. Il y a quelqu'un qui a révélé cette information. Donc moi, je trouve ça intéressant du coup d'en reparler un petit peu, d'être sûr que ce soit bien connu. Donc, Apple a réussi à contraindre Google à leur verser 36% des revenus de publicité sur les pages de recherche en contrepartie du fait d'être le moteur par défaut.
Après, Safari, c'est pas non plus le navigateur, leader sur l'ensemble du marché.
Non, mais sur le marché des iPhones, c'est leader.
Sur le marché des iPhones et des iMac. Mais au final, si on prend l'ensemble des navigateurs utilisés, quelle que soit la plateforme, ça reste quand même, une part qui est faible.
Qui est faible, mais qui est importante pour Google, en tout cas suffisamment pour justifier ça. Et donc, Google va utiliser cet élément-là pour dire, regardez, c'est bien la preuve que on fait pas des manœuvres anticoncurrentielles, regardez, c'est juste qu'on est obligé de payer, on paye très cher notre position, finalement. Et moi, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est imaginons une entreprise qui veuille se lancer sur le domaine du moteur de recherche. Donc,
Il y en a qui ont essayé.
Il y en a qui ont essayé. Comment vous faites pour vous lancer en disant, alors pour avoir le droit d'être par défaut sur Apple, je vais peut-être devoir payer plus que 36% des revenus.
C'est aussi compliqué que lancer un système d'exploitation dans les années 90.
Je pense que c'est plus compliqué. Honnêtement, c'est plus compliqué. C'est impossible puisque on te demande d'avoir. En fait, tu dois te dépouiller financièrement toi-même avant même d'avoir pu te lancer. C'est intenable.
Des coûts d'entrée.
Oui, le coût d'entrée est fantastique. Et la mise en place de coûts d'entrée, parce que Google a les poches larges et les autres, du coup, en profitent, ce genre de coûts d'entrée, c'est anticoncurrentiel.
Allez, on va terminer cette partie-là avec Microsoft. Oui. Tout d'abord, Microsoft, si vous voulez quitter l'application OneDrive, elle veut savoir pourquoi vous partez. Bon, c'est assez courant chez les podcalls.
Ouais, mais là, c'est...
Microsoft est vraiment un podcall d'un genre un petit peu particulier.
Oui, c'est ça. Et là, vraiment, il n'y a pas d'option pour dire « Non, non, je ne veux pas le dire. »
Après, tu peux écrire en clagon si tu veux. Hein.
Ouais, mais enfin, c'est bien la première fois que je vois ça sur une application sur PC comme ça. Quoi. Vous voulez fermer l'application, vous faites quitter parce que vous n'utilisez pas le service cloud de OneDrive de Microsoft, ceci, cela. Et donc, vous avez l'application qui vous dit, alors, indiquez pourquoi vous voulez quitter l'application. Et donc, les options, c'est, je ne veux pas avoir OneDrive qui tourne en permanence, je ne sais pas ce qu'est OneDrive, je ne l'utilise pas, j'essaye de corriger un problème avec OneDrive, j'essaye d'accéder à mon ordinateur, j'ai trop de notifications ou autre. Alors, j'espère que autre, ça ne te demande pas obligatoirement de remplir un texte, mais comme je ne sais pas Windows, je n'ai pas pu essayer.
Ouais, tu peux mettre autre, et puis après, tu écris, c'est ton chat qui s'amuse avec le clavier, qui marche sur le clavier.
Je rappelle que dans le monde de l'intelligence artificielle, on peut détecter que c'est un chat et du coup de demander à avoir un vrai texte. Ça pourrait être vraiment drôle, ça. Non, mais c'est quand même incroyable. Vous avez une application qui est installée sans vous demander, qui est lancée sans vous demander, et par contre, quand vous osez fermer l'application et la quitter, là, par contre, on vous demande de dire pourquoi. C'est incroyable. Donc j'espère que ça va disparaître. Les OneDrive, ça fait partie des services qui vont être concernés par les changements au niveau européen. Donc on va voir la suite, mais je pense que ça va... En fait, l'Europe, partie comme c'est, j'ai envie de dire, alors du point de vue du logiciel libre, ça ne changera pas grand-chose, mais pour les gens qui utilisent le logiciel propriétaire, ça va être une nette amélioration de la qualité de vie, finalement. Ça va être beaucoup moins d'emmerdes. Je trouve ça assez bluffant.
La partie de la campagne pour la promotion des élections européennes de 2024.
C'est vrai.
Voter. Enfin bref, il n'y est pas encore. Hein, on vous rappellera d'ici là.
On en parlera plus tard.
Une dernière sur Microsoft. Donc la dernière version d'Outlook vous permet d'utiliser un service autre que Microsoft, donc de paramétrer un serveur IMAP, SMTP et compagnie d'un autre service, Google, Yahoo, votre boîte ou je ne sais encore, mais vous oblige à synchroniser la mail avec Microsoft.
Oui, alors j'avoue...
Et donc envoyez vos mails à Microsoft.
Oui, et les mots de passe aussi, et les logins, hein. Tout.
C'est sale.
Ouais, c'est très sale, et j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai fait... Hein ? J'ai pas compris tout de suite. Oui, comment ? Comment c'est possible ? Comment on peut réussir à faire ça ? Et donc, le nouvel Outlook, voilà, c'est plein de fonctionnalités, c'est trop bien, et on a mis de l'intelligence artificielle, et on a mis plein de trucs, c'est trop super génial. Sauf qu'en fait, bon déjà on va commencer juste pour la partie technique. Jusqu'à maintenant, historiquement, il y a eu 4 versions d'Outlook, peut-être même 5. Là maintenant, ils ont enfin simplifié. Alors à une époque, il y avait Outlook Express pour les plus vieux d'entre nous. Oui, à l'époque des 98, Millennium, 2000 XP, oui. Il y a eu Outlook PC, Outlook Mac, Outlook Web. Donc on est sur 4, on va dire 3 versions vivantes. Ça fait trop.
On a retrouvé Outlook au clair de lune.
C'est ça.
Outlook extraterrestre.
Et du coup, ils ont dit, on va simplifier, on va faire un seul Outlook, une seule application qui prendra en charge à la fois les besoins du grand public et les besoins des entreprises, et ça va être trop beau, et ça va être trop génial. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une application web, et ils ont encapsulé l'application web sur les applications de bureau, ou que ce soit Windows ou Mac. Autant dire que les performances, vous pouvez vous asseoir dessus, ainsi que certaines fonctionnalités, mais c'est pas grave, c'est le monde moderne, on n'en a plus rien à faire.
Ils ont fait comme un éditeur d'application Android bas de gamme ?
Oui.
Oui, d'accord. Voilà.
Ah oui, parce qu'il y a les... C'est effectivement, c'est pour ça, il y a plus que ces versions d'Outlook, il y a la version aussi iPhone et Android. Hein ? Et donc, ben dans ce cadre, ils ont... La fonctionnalité de base d'un lecteur de mail, c'est votre ordinateur se connecte au serveur de mail en face... Avec la clé pour ouvrir la boîte, il regarde ce qu'il y a dans la boîte et il vous le dit.
Et c'est du simple. Coup, les pages, elles sont forcément en ligne ou
en fait, il y aura une
application. Parce que bon, tu peux des fois.
T'as l'application JavaScript hors ligne sur ton ordinateur en fait. D'accord. C'est pas une page web, c'est une application JavaScript finalement. Mais ça va se connecter au serveur de Microsoft pour tout ce que l'application ne peut pas faire. Et donc, tout ce qui est machine learning, donc la partie intelligence artificielle, l'application ne peut pas le faire parce que c'est un foutoir de niaiseries sans nom. Et voilà, on va faire tourner ça sur nos serveurs, on va faire tourner ça avec du matériel spécifique qui coûte une blinde, mais bon, on s'en fout parce que ça nous permet d'avoir vos données et ça, ça vaut très cher. Et voilà, et tout va bien. Alors, je sais... J'ai pas trouvé l'information pour savoir à quel point ça allait être légal en Europe, parce que j'avoue que niveau RGPD, ça me choque un peu, ça me titille. Parce que jusqu'à maintenant, je répète, c'était votre ordinateur qui se connectait au serveur en face. C'est, vos mails sont chez, peu importe, Yahoo. Allez, on va prendre, même si c'est propriétaire, etc. Votre serveur se connectait chez Yahoo, récupérait les mails, et voilà. Et c'était entre vous, votre machine, à vous, et les serveurs de Yahoo. Et donc là, dans ce nouveau fonctionnement, ça va être votre machine, le serveur de Yahoo, et aussi eh ben, des serveurs de Microsoft. Je comprends vraiment pas ce que ça vient faire. En fait, je n'y arrive pas. Je comprends vraiment pas qu'ils aient osé proposer ça. Et ce qui me fait peur, c'est que du coup, des gens vont se faire avoir. Parce que des journalistes qui ont vu ça ont dit « Mais on n'a pas compris tout de suite ce que c'était. » Personne n'y a cru, tellement c'est énorme. C'est. Est-ce que vous confierez, est-ce que vous dites, allez, mon courrier, je vais automatiser, au lieu d'avoir ma boîte aux lettres chez moi, ça va être une boîte postale à la poste. Par contre, la poste va faire des photocopies qui vont distribuer à tels autres tiers pour lire le courrier.
Ça va quand même beaucoup réduire l'impact de cette décision.
Non.
Connaît grand monde dans le monde grand public qui utilise un client de mail.
Ben avec ce genre de choix, encore moins.
Parce que en gros, soit tu utilises un client mail, t'es quand même plutôt un utilisateur assez éclairé, à le dire. Soit tu es un utilisateur lambda et dans ces cas-là, tu fais comme à peu près tous les utilisateurs lambda et tu utilises ta webmail. Ou alors tu es un administrateur d'une entreprise. Administrateur mail, réseau et compagnie d'une entreprise. Dans ces cas-là, tu refuses ce genre de choses. Bon, sauf si tu es un administrateur de PME. Et encore.
Du coup, je disais, moi, je partirai pas sans me battre. Hein. Le lecteur de mail, c'est sacré. Faut pas casser. Et là, ils ont quand même bien cassé le truc.
Rappelons qu'il y a donc Thunderbird.
Thunderbird qui fonctionne plutôt mail, bien. Alors, j'ai passé la dernière version. Et il est libre, évidemment.
Et qui fait partie de la fondation Mozilla.
Exactement.
On va parler logiciel libre cette fois-ci, après un deuxième morceau de musique. Là, vraiment, on va partir sur une séquence logiciel libre dédiée au logiciel libre. Après avoir écouté Tony Patterson, Think You Was Right. Vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. Lately, time seems stretching out. And sleep, worrying all night. Can you see? There's something wrong with me. I'm covering my bones and clothes and keeping water down. I know I got more than most, practically a crown. So why don't it?
couple days, my heart will race, and my bones will ache. So I think back to what she said, you're still stuck in my mind. Nothing good happens after 3 a.m. in the middle.
Tony Peterson, Think She Was Right. Vous écoutez les Codes Ignus sur Radio Campus 106,6, la radio numérique RC Campus Lille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciels libres et on va commencer par un des plus illustres d'entre eux, Blender, donc l'outil de création de graphisme 3D.
Tout à fait. Alors, Alexandre, je sais pas pour toi, moi je suis une grosse brêle.
Tout ce qui est graphique, moi, je.
Ouais, non, moi, j'y arrive pas. Hein, donc. Va falloir me demander trop.
Ah bah, il y a qu'à regarder le blog de l'émission, hein, notre podcast. On a pris un WordPress, on a appliqué un thème par défaut. J'ai mis un logo, j'ai changé peut-être la police et d'autres couleurs.
C'est déjà plus que ce que je trouvais, c'est bien. Et donc voilà, Blender, c'est la référence. C'est même un logiciel qui est utilisé pour la réalisation de certains films d'animation. Alors, c'est pas tout le temps mis en avant, mais voilà, il y a des références. Enfin, c'est Blender, c'est l'une des références dans le domaine. Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire, hein. c'est un logiciel qui existe depuis plus de 20 ans. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Blender en tant que logiciel libre, c'était en 2001. Donc vraiment, c'est un logiciel qui date. Et donc la nouvelle version, alors de l'amélioration sur l'interface graphique, comme d'habitude, amélioration de support matériel, amélioration sur différents effets graphiques, l'utilisation du matériel pour accélérer les rendus de certaines scènes, ceci, cela. Si vous aimez le graphisme 3D, si vous aimez essayer de dessiner des objets en 3D, etc. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est quand même un beau logiciel. Alors, c'est un logiciel de dessin, d'animation, c'est pas un logiciel de CAO. Attention, c'est pas de la conception d'objets.
C'est quand même un logiciel plutôt orienté professionnel.
Oui, clairement, oui. Après, un graphiste amateur, il a besoin des mêmes outils que les professionnels, et c'est l'un des intérêts, c'est que l'outil, du coup, il est au même prix que pour les professionnels, il est gratos. Et ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas regardé si la Fondation Blender avait fait des nouveaux films. Je regarderai pour voir si on peut pas parler un peu de ça à l'occasion. Et voilà.
KDE Plasma 6.0 a vu sa première version de test sortir.
Tout à fait. Donc KDE Plasma 6, alors c'est prochaine grande évolution de KDE Plasma. Alors c'est surtout une évolution sous le capot, on en reparlera plus quand ça sortira, mais voilà, c'est l'occasion de parler du calendrier de ce grand projet d'environnement de bureau pour Linux. Donc l'objectif, c'est de sortir la première version le 28 février, donc de l'année prochaine, c'est bientôt. Donc ça fait plusieurs mois que c'est en développement, évidemment, c'est du développement qui s'est accumulé. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, donc voilà, une fois qu'ils avaient la liste de ce qu'ils devaient faire, ils sont mis il y a quelques mois. Donc ce sera à suivre, évidemment, il y aura beaucoup de changements dans le lot. L'un des gros changements, et ça va être intéressant à voir du coup, c'est le tour du projet KDE aussi, de dire désormais on envisage d'utiliser Wayland, nouveau système d'interface graphique sous Linux, utiliser Wayland par défaut. Et d'ailleurs, dans cette veine-là, il y a aussi Firefox qui a décidé que ça y est, eux aussi vont activer Wayland par défaut sous Linux. Donc ça va être à suivre, l'année à venir va pouvoir quand même pas mal d'évolutions au niveau de l'interface graphique sous Linux. On verra comment ça va marcher une fois que ça sera vraiment répandu à grande échelle. Et j'avoue, j'ai quelques petites appréhensions pour certaines configurations cheloues.
Pierre, une fois n'est pas coutume, tu veux pousser un petit coup de gueule?
Ah bon ?
C'est pas le genre de la maison.
Non.
Sur les 62 mégaoctets que pèsent les firmware sur les cartes Nvidia modernes. Donc, oui, je trouve ça beaucoup, je pense.
C'est 62 mégas, c'est énorme. Mais
t'as fait un Windows 95.
Oui, oui, même plus que ça. Windows 95, il tenait sur une pile de disquettes. Hein. C'était pas. C'était, alors certes, ils avaient triché sur la taille des disquettes. C'était des disquettes de 2 mégas quasiment. Faudrait que je fasse. Non, je vais pas faire une dédicace sur. Non, je sais pas. Je crois que ça va
Restons
pas être.
Factuel, monsieur Pierre.
Ça va pas être autorisé. Et donc, dans le cas d'Nvidia, en fait, leurs nouvelles cartes graphiques, ils disent oui, on a fait un truc et du coup maintenant ça pourrait être du logiciel libre pour piloter la carte graphique. Par contre, il y a un code propriétaire qui tourne dans la carte, qui doit être poussé par le Linux dans la carte. C'est le firmware, ça s'appelle. Et c'est 62 mégas. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça me choque. Déjà, juste la taille en tant que telle. 62 mégas de code, c'est monstrueux. Alexandre disait, c'est l'équivalent de Windows 95. Oui, c'est même l'équivalent de Windows 98. C'est plus que le poids du noyau Linux. Une fois compilé, votre carte graphique, elle fait tourner l'équivalent d'un Linux. Ah bon ? C'est normal. Faut pas s'offusquer, tout va bien. Nous sommes dans un monde merveilleux où les gens ont bien conçu leurs choses. Autre facteur, c'est que ben du coup, ça veut dire que ces 62 mégas, on sait pas, j'espère que ça fait rien de mal parce que la carte graphique, elle a accès aux autres ressources de l'ordinateur. Il y a un problème, 62 mégas, c'est quand même assez colossal, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors là, c'est un peu du fud quand même de dire ça comme ça, mais ça reste un problème, ça reste un bloc propriétaire et vraiment impossible de savoir ce que ça fait. 62 mégas, ça veut dire aussi que sur votre système Linux, il va falloir que ce code-là soit ajouté au démarrage. Parce que c'est au démarrage du Linux que la carte graphique est initialisée. Et du coup, ça va vous ralentir quand même un petit peu le démarrage de Linux. Mais voilà, c'est pas grave, enfin, voyons, c'est un fabricant que. Ils ont bien conçu leur truc. Et. En fait, je
sens chafouin quand même.
Je comprends pas que ça a été. Que même les ingénieurs chez Nvidia soient dit, ouais, c'est bon, tout va bien. Je comprends pas qu'ils en soient arrivés à cette conclusion-là. J'y arrive pas.
Une petite sortie logicielle, Fedora 39 est sortie avec GNOME 45, des nouveaux logiciels, tous plus à jour les uns que les autres. Fedora qui est la bêta de Red Hat, hein. Distribution connue pour être stable avec des outils d'administration. Voilà, c'est partie des distributions vedettes, bien finies. Voilà, c'est un bon choix pour avoir un Linux qui est adapté pour un ordinateur de bureau. Tu parles, Pierre, régulièrement des moyens que nécessite le développement de logiciels libres, surtout les gros logiciels libres. Et là, c'est la Fondation GNOME qui a reçu 1 million d'euros du Fonds technologique souverain allemand.
Tout à fait. Alors, on ne sait pas. C'est pour supporter du travail autour de la vie privée, support matériel, l'accessibilité et plus. Alors, j'ai pas lu
on
toutes les
On défend annonces. Régulièrement le financement des logiciels libres au niveau public ou le recours à des logiciels libres, même le financement du développement de logiciels libres qui permettent d'être mutualisés par différentes administrations. Bon, là, c'est un autre exemple de financement public intelligent.
Exactement.
Et donc, tu parlais du coup d'un logiciel et Signal. Logiciel oui. Libre de
messagerie instantanée et sécurisé
disponible sur les smartphones Android notamment, ça permet d'avoir une alternative à WhatsApp. Le coût de Signal par an, c'est 50 millions de dollars.
C'est ce qu'ils ont prévu en tout cas pour 2024. Et voilà, c'est 50 millions de dollars par an. Et je voudrais juste souligner un élément dans ce budget prévisionnel, juste pour faire réchléfir, comme on dit. Signal, pardon, quand on s'identifie, c'est comme les WhatsApp, c'est comme Telegram, comme plein d'autres services. C'est lié à votre numéro de téléphone et du coup, la validation se fait notamment avec l'envoi d'un SMS.
Ce qui n'est pas forcément très fiable.
Déjà. Mais surtout, le budget de 50 millions, ça inclut 6 millions de dollars par an d'envoi de SMS.
ça leur coûte 6 millions par an.
Ah, il n'y a pas de somme forfaitaire comme ça. C'est, non, ils payent au SMS.
Ah ben, ils payent au SMS, oui. Mais moi, les services SMS entreprise, c'est des packs payants. Hein. Tu payes au SMS. 6 millions, je pense qu'honnêtement, ils ne doivent pas les payer trop cher que ça, leur SMS en plus. Hein. C'est 6 millions par an d'envoi de SMS. Donc, quand vous dites... Oh, là, ce service-là, ça serait bien qu'il y ait des SMS de vérification des comptes ou des trucs comme ça. Réfléchir un petit peu au coût que c'est en fait derrière.
Le coût qui vous est ensuite refacturé.
Évidemment. Faut pas. Avec des pubs.
La dégicalisation arrive après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Roman Koch, Jack aux lanternes. Vous écoutez les Codes Ignos sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Roman Koch, Jack aux lanternes. Vous écoutez le Code Igloo sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Aujourd'hui, Pierre, oh, une fois n'est pas coutume, un coup de gueule.
Non, je c'est pas courant.
C'est vraiment pas ton style. Hein. Et cette fois-ci, c'est contre Android, AOSP et Google, Mediatek et l'obsolescence forcée.
Tout à fait. Je vais, en faisant la route, en venant ici, en pensant à la déguisation, je vais probablement même blasphémer tout à l'heure un moment. Donc attention à vos petites oreilles. Tout d'abord, juste petite histoire personnelle, mes relations avec les téléphones portables et les intelliphones.
Des relations assez distantes.
Mon premier intelliphone était un OpenMoko Neo Freerunner. Donc, qui date de 2007, qui date avant la sortie des iPhones. Et c'était un téléphone intelligent, mais qui n'avait pas de clavier, qui était assez gros, assez buggé, qui était complètement ouvert. Je pense que pendant des années, on pouvait faire fonctionner encore des versions de Linux dessus. Il n'y avait aucun problème. C'était une machine qui était vraiment conçue pour cet usage-là et qui était très, 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 très geek. Alors ensuite, j'ai basculé dans le monde de Nokia. Alors pour ma part, je suis un amoureux du design des machines type N900, N950. J'ai eu les deux, j'ai eu la chance d'avoir un N950. Ce sont des téléphones portables qui s'utilisent soit en mode paysage quand on a besoin de téléphoner, mais pour tous les autres usages, on le met en mode portrait, en mode paysage, pardon, et on l'ouvre et on a un clavier plutôt correct sur le N950 et le N900. Et ça permet d'avoir un mini ordinateur de poche. J'ai toujours aimé ce concept. Le problème, c'est que ce type de concept a un petit peu disparu. Un peu complètement. Avec la mode du smartphone. Jusqu'à ce que, il y a quelques années, il y a une entreprise, Planet Computers, une entreprise britannique, je crois, qui a sorti... en fait, ils vendent ça comme étant non pas un téléphone portable, mais un PDA, un Personal Digital Assistant. Donc finalement, le successeur des Psion, pour ceux qui ont connu l'informatique des années 90, Alexandre, je ne sais même pas si toi tu te souviens.
Psion, non,
les Psion. Ah oui, quand même. Donc je suis vraiment un vieux
con. Ah, c'est pas les machins avec les stylets, non ?
Si !
Ah si, voilà.
Ouais, si. Donc ça se veut comme le successeur de ça.
Absolument foireux.
Oui, oui, mais
d'accord.
Il se veut successeur de ça, donc plutôt que d'être en mode smartphone, vraiment c'est l'ordinateur, l'assistant de poche, etc. Et moi j'ai vu ces trucs-là, mais bon, j'avais pas trop envie de claquer de l'argent là-dedans, surtout que j'en ai pas tant le besoin. Et là, un collègue m'a dit, écoute, moi je me sers plus du mien, je te le file cadeau. Et ça m'a permis de découvrir l'enfer. Vraiment. L'appareil a été vendu en 2018. Il a été mis sur le marché en 2018. Et tout de suite, ils ont permis de le lancer à la fois sous Android et sous Linux avec une Debian. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est cool, voilà, je peux faire. C'est un appareil mobile, mais sur lequel je peux faire tourner un système moderne, à jour. C'est bien, il était temps. Et en fait, pas du tout. Donc, l'appareil est sorti en 2018 et l'un des composants logiciels principaux, c'est-à-dire le noyau, donc Linux, ne peut pas être mis à jour. Vous êtes contraint d'utiliser un Linux sorti et abandonné vers 2018-2019. Parce que, en fait, dans la pile, qui a fait le noyau compatible avec le matériel ? C'est pas les distributions, c'est pas le projet Android, c'est une recette à adapter, c'est pas Planet Computers, c'est le fabricant de la puce, Mediatek, et ils ont fait un travail dégueulasse, ils ont libéré le code qu'ils avaient besoin de libérer, mais ils l'ont fait de manière dégueulasse, personne ne peut comprendre ce qui a été fait, c'est pas documenté ni rien. Ils ont sorti leur puce, ils ont fait leur joli caca, et c'est bon, on a terminé le travail. Donc, vous avez une machine, dès sa sortie, dès 2018, elle était condamnée, elle était obsolète. Dès sa sortie sur le marché. Et c'est là où je vais...
C'est plus de l'obsolescence programmée, là, c'est de l'obsolescence précoce.
Oui, c'est immédiatement, c'était rideau terminé. C'est bon, on a sorti le truc, et c'est marre. On est passé, nos ingénieurs ils sont occupés à faire une autre puce, donc c'est bon, nous faites pas chier avec ça. Je vais pas condamner Planet Computers, parce que c'est avec leur budget, avec leurs contraintes, ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Par contre, ce qui me choque, et là-dessus... il y a deux points qui vraiment me vont vraiment pas. Ce qui me choque déjà, c'est que le projet Android autorise ces dérives-là. Lorsqu'Android a évolué au fil du temps, Android s'est sorti il y a plus de 15 ans maintenant, quand c'est sorti, les puces pour téléphone portable étaient 32 bits. Lorsqu'on est passé aux 64 bits, ça a été un changement matériel important. À ce moment-là, Google avait toute l'attitude pour dire aux fabricants, alors sur les puces 64 bits, on est désolé, c'est pas open bar, vous êtes obligé de mettre la description du matériel à tel format, tel endroit, documenté. Point. Google avait ce pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Google a choisi de faire un crime écologique. J'ai pas d'autres mots. Ils ont laissé faire des fabricants en sachant pertinemment que c'était du matériel jetable. Ils ont laissé faire. Et notre seul espoir là-dessus, et c'est ce qui me choque, et c'est aussi une réponse finalement à la déclaration d'il y a deux semaines, si Microsoft, ça me fait vraiment mal de dire ça, si Microsoft essayait de vendre du Windows sur des téléphones portables ou autres, ils imposeraient un format standard, parce qu'ils ne veulent pas que les différents fabricants touchent à leur noyau. Et donc le logiciel propriétaire sur ce domaine-là aurait aidé d'un point de vue écologique, et ça me fait mal de l'avouer.
Écoute, en tout cas, merci pour cette franchise et pour ce coup de gueule. Un petit point rapide sur l'agenda. Mardi, nous serons le 28, donc le dernier mardi du mois, permanence de l'association Ch'tinux au Café Citoyen à partir de 20h. Place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille et une foire aux installs. Ce sera donc le dimanche 25 novembre à Lens, au Toit Commun, de 14h à 18h. Non, le samedi 25, je me suis trompé. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chop Papimento. La semaine prochaine, ce sera la deuxième ligne à 19h, sera donc du jazz. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour l'Écho des Gnous 263. Nous serons donc le 3 décembre à 19h. Bonne soirée à tous, bonne fin de week-end.
Bye bye.
L'écho des gnous.